Décryptualité, semaine 40 de l'année 2020. Salut Manu.
Salut Luc.
Bon, on est encore que tous les deux, hein, décidément. C'est mal parti pour retrouver Nolwenn et Nicolas. Donc le sommaire de la revue de presse de cette semaine.
On a 6 jolis articles.
France Inter, données de santé des Français, faut-il avoir peur du géant Microsoft ?
Oui, il faut avoir peur, bien sûr. Parce que l'État français a exporté nos données de santé aux États-Unis. Donc on en a parlé déjà, c'est un sujet qui va continuer, je n'en doute pas, parce que c'est quand même embêtant.
Ce ne sera pas notre sujet du jour, mais en tout cas, il y a certains éléments qu'on pourra rattacher à ça. Gardons-le dans la tête. Acteur public, Jean-Luc Nevache, la culture des administrations est encore aujourd'hui davantage celle du secret que de l'ouverture.
Donc c'est un entretien et ça parle de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Donc c'est des sujets qu'on suit pas mal dans le monde du logiciel libre, parce qu'on aime bien savoir ce qui se passe dans les administrations dans l'État français. Pourquoi notamment ils choisissent Microsoft ? Voilà, par exemple.
Journal du net, une digital workplace 100% free se révèle dans le sillage du Covid. Un article d'Antoine Crochet-Damet. Que d'anglicisme.
Ah oui, ils aiment bien là, faut croire. Donc ça parle de travail à distance. Et on est en plein dans l'époque. Hein. Est-ce qu'on va arrêter de se déplacer pour aller au bureau ? Et le logiciel libre aide beaucoup pour faire du télétravail.
ZDNet France, logiciel libre à l'éducation nationale, une question et une non-réponse et des éléments, un article de Thierry Noisette.
Voilà, il y a des gens qui s'intéressent au sujet de l'éducation nationale et des logiciels qui y sont utilisés. Là encore, Microsoft a été choisi il y a déjà quelques temps et ça reste embêtant, hein, ça nous embête beaucoup. Et bien là, il y a des questions qui ont été posées sur le sujet au niveau des institutions, mais il n'y a pas vraiment eu de réponse pour l'instant. Mais ça évolue au fur et à mesure du temps. Ces questions continuent à être posées régulièrement par des députés, des sénateurs. Et on aime bien décortiquer les réponses au fur et à mesure.
CIO Online, Stéphane Rousseau, VP du CIGREF. Les logiciels libres sont des choix par défaut dans les infrastructures.
Alors,
c'est une interview, oui.
Oui, une interview vidéo. J'ai jeté un œil, intéressante. Le CIGREF, c'est un groupement des plus grosses entreprises françaises.
Utilisatrices d'informatique.
Exactement, et donc c'est plutôt intéressant de voir ce qu'ils disent du logiciel en général. Ce ne sont pas de dangereux communistes, non, clairement pas. Et ils aiment bien le logiciel libre malgré tout, donc c'est plutôt intéressant. Ils le mettent en avant, alors là, dans le cadre des infrastructures, mais on a pu entendre parler d'autres sons de cloche sur d'autres articles.
Oui, dont on parlera un petit peu plus tard. Ce sera notre sujet de cette semaine, Informatique News. Microsoft n'abandonne ni Windows on ARM, bien au contraire, un article de Loïc Duval. C'est une réaction à un article de blog de Eric S. Raymond, donc qui est un vieux de la vieille de l'open source, c'est un pur open sourciste.
Il y a un troller de première, donc c'est ESR hein, dans le monde du libre.
Ouais. Qu'est-ce qu'il a annoncé ?
Bah, qu'en gros, ça y est, Microsoft allait convertir son système d'exploitation Windows à Linux, ce qui paraît bizarre, mais c'est vrai que Windows, c'est un système complet, soi-disant, et Linux, c'est un noyau, et donc, en théorie, il pourrait tout à fait intégrer ce noyau dans le système complet et bah, le livrer. Et après tout, Linux est du logiciel libre, donc légalement, techniquement, il pourrait le faire, et il y a des signes qu'ils sont en train de le faire.
Alors moi, j'ai du mal à y croire, parce que tu vois, bon, ça remonte un petit peu à loin, mais Steve Ballmer, qui était l'ancien patron de Microsoft, qui avait pris la suite de Bill Gates, avait dit que le logiciel libre et Linux, c'était un cancer, le cancer de l'informatique. Alors on sait que Microsoft a tourné Kazakh et fait de l'open source.
En changeant de dirigeant, notamment.
Voilà, mais on peut se dire que voilà... Windows, c'est leur logiciel phare, ils sont en quasi-monopole.
C'est leur vache à lait, hein. Ils ont fait des milliards à l'aide de ce système-là.
Ça doit être des millions, des centaines de millions de lignes de code. C'est du code qu'ils possèdent entièrement, donc ils ne vont pas tout jeter, ou en tout cas le noyau, toute la partie vraiment technique, ils ne vont pas tout balancer à la poubelle.
En tout cas, en théorie, parce qu'il y a des signes qui sont assez bizarres. Alors, premier signe, sur leur cloud, leur informatique en nuage, Microsoft fournit plein de systèmes là-dessus, ça s'appelle Azure. Et ben, c'est ça qui est en train de gagner de l'argent chez eux, il semblerait, en ce moment. Et dans leur système en nuage, il y a plus de Linux, de machines avec un Linux qui tourne dessus, que de machines avec un Windows. Et c'est un signe assez bizarre.
Alors, on savait de longue date hein, que les serveurs Windows, c'est de la merde. Hein, ça marche quand même très très mal. Et ça fait des années qu'ils utilisent du Linux de partout. Et une des raisons pour laquelle ils sont rentrés dans la fondation Linux, c'est qu'effectivement, ils veulent faire tourner leurs serveurs avec des technologies qui marchent bien. Quoi.
On a même remarqué, et ça a beaucoup fait jaser, que Microsoft est un gros contributeur au noyau Linux. Alors, notamment pour l'adapter et le faire tourner dans Windows. Parce que ça, c'était quelque chose qui est apparu il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Mais ils ont installé dans Windows une sous-couche, une compatibilité, on va dire, une sorte d'émulateur intégré qui s'appelait WSL et qui permettait de faire tourner les programmes Linux dans Microsoft Windows. Et là, depuis l'année dernière, ils ont intégré une deuxième couche, WSL2. Maintenant, ils ont mis directement dans Windows, en plus de leur noyau d'origine, qui est toujours là, un noyau Linux. Donc, il y a un côté un peu bicéphale, très intéressant, et qui leur permet de revendiquer, voilà, bah, ils font tourner du Linux tel quel, quoi, à peu près.
L'argument d'Eric S. Raymond, c'est de dire, bah, regardez, ils ont une Edge, donc, qui est leur navigateur, ils sont en train de le porter sous Linux.
Anciennement Internet Explorer, hein, juste pour replacer, ça, voilà, ça, on en parlait beaucoup sous voilà. ce nom-là à une époque.
Tout à fait, et on se doute effectivement que c'est pas pour la petite poignée d'utilisateurs de Linux en ordinateur personnel qui font cet effort-là, parce que c'est négligeable. L'autre chose qui est intéressante avec ce changement, c'est de se dire, bah, ils avaient un navigateur sur lequel ils ont investi depuis des années, Internet Explorer, qui a toujours assez mal marché, mais avec lequel ils ont essayé de tuer Internet à une époque, ou en tout cas de le dévoyer, de se débrouiller pour que ça marche très mal, pour que tout le monde reste chez eux.
Ils l'avaient super bien intégré à leur système, oui. Et ça avait même été au tribunal, et ils avaient dit, non, on ne pourra jamais l'enlever, c'est trop compliqué, notre position de monopole est légale et logique.
Et ils avaient fait plein de petites technos qui n'étaient pas normalisées, et donc qui marchaient bien dans leur navigateur, mais pas dans les autres navigateurs, donc c'était ça il y a 10 ans, ça buguait dans tous les sites, etc. Et c'est écrit partout, utilisez Internet Explorer si vous voulez que ça marche bien, et c'était une stratégie de leur part.
C'était l'enfer, moi, développeur voilà. web, je détestais ce genre de choses.
Donc, fait Edge, donc, qui était censé être leur nouveau navigateur qui enfin marchait bien, etc.
Marchait moins mal.
Voilà. Et on a pris, il y a quoi, un mois, deux mois
peut-être Ah un non, il y a un peu plus de temps.
Mais il n'y a pas si longtemps que ça qu'ils bah, balançaient leur moteur et qu'ils allaient utiliser Chromium, donc qui est le moteur de Chrome fait par Google, qui est aussi du logiciel libre. Donc, on voit qu'ils sont capables de balancer du développement interne, du code qu'ils maîtrisent, qui leur appartient. Donc, pourquoi pas celui de Windows, effectivement.
Ça va très loin. Hein. Ils ont acheté GitHub il n'y a pas très longtemps. C'est une plateforme qui héberge nombre de logiciels libres et ils ont mis plein de leurs librairies internes dessus. .NET, en grande partie, est libéré. Donc, c'est une librairie composante cœur de tous les systèmes qu'ils vendent et sur lesquels ils font de l'argent. Donc, ça va très loin. Moi, je me dis, il y a des évolutions incroyables.
Microsoft, ils sont là pour faire de la thune. C'est le principe. Hein,
comme... Et ils en font. Oui, ils en font beaucoup.
Windows a toujours été leur vache à lait. Ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Quel intérêt ils ont à changer leur modèle? Parce qu'on avait dit aussi, il y a des bruits qui couraient il y a quelques années que Windows allait devenir gratuit. Bon, c'est toujours pas le cas.
Pas tout à fait.
Voilà. Mais quel intérêt pour eux de changer quelque chose qui leur apporte beaucoup d'argent?
Bah, on peut supposer que c'est des changements de modèle. De la même manière qu'à une époque, ils vendaient des licences, aujourd'hui, ils vendent des abonnements. On ne met plus à jour son système de la même manière en achetant un disque qu'on met dans le manche-disque et qu'on installe. Non, c'est des mises à jour régulières. Et pour eux, c'est de l'argent qui rentre facilement. De plus en plus, ça va dépendre bien du cloud sur lequel ils ont Office, qui reste vraisemblablement leur vache à lait majoritaire et qui est en abonnement là aussi.
Alors Office 365, qui est leur solution de bureautique, on peut l'utiliser uniquement en mode web, mais il y a aussi les applications qui sont en dur sur l'ordinateur, mais qui vont communiquer, être connectées sur des services hébergés, cloud, etc., pour partager ou travailler ensemble sur des données.
On peut aussi imaginer que, bah, ils ont raté des tournants, ils ont raté le tournant du téléphone portable, notamment, qui est un truc assez considérable, et dans une certaine mesure d'Internet, bah là, peut-être qu'ils en ont marre de rater les tournants et que là, ils se disent, bon, allez, on va essayer d'accaparer d'autres technologies, de les intégrer. Après tout, ça leur coûte moins cher d'intégrer un noyau Linux que de refaire une énième nouvelle technologie de noyau.
Voilà, et donc là, ça rejoint l'article que j'ai mentionné du CIGREF, réaction du CIGREF qui n'était pas dans la revue de presse. Donc CIGREF, on le rappelle, association des très grosses entreprises françaises utilisatrices d'informatique, et qui dit en gros que le modèle du cloud est dévoyé et qu'ils sont en train de se faire avoir, notamment avec la crise du Covid, que les tarifs montent tout le temps, qu'on peut de moins en moins négocier, et qu'une fois qu'ils ont mis tous leurs services, tous leurs applicatifs dans le cloud, bah, ils sont pieds et poings liés parce que bah, on a nos machines chez un hébergeur, donc l'hébergeur il fait ce qu'il veut, et s'il dit je coupe, et bah, on est à poil.
Ça va loin, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent même avoir peur que les vendeurs de nuages leur revendent leurs propres données. C'est d'après l'article que tu me montrais. Donc là, clairement, ils sont en train de se faire plumer. Ils mettent des serveurs dans les nuages de ces différents fournisseurs, les services informatiques dans ces nuages, les données dans ces nuages. Il manque plus que quoi la
Et puis
la
les
maîtrise.
Logiciels eux-mêmes, donc c'est un piège. On est coincé, on est piégé. Ils sont en train de nous tondre. Donc on comprend l'intérêt de Microsoft à foncer vers ce modèle-là, qui est un modèle d'enfermement
au plus pur, hein.
Voilà, tout à fait efficace, et c'est super intéressant pour eux. Donc Linux, là-dedans, c'est un noyau super efficace, donc on rappelle, hein, c'est utilisé ailleurs, par d'autres GAFAM qui proposent...
Android.
Voilà.
Bah, moi, je rappellerai aussi que Apple utilise majoritairement en sous-main du logiciel libre, parce qu'une bonne partie de leur noyau vient d'un noyau BSD, d'un dérivé, Ils l'ont inclus dans leur système propriétaire et ils ont enfermé leurs utilisateurs, bien qu'ils utilisent ça.
Ouais, alors une différence peut-être, je ne sais pas si ça fera la moindre différence, mais le noyau libre utilisé par Apple était sous une licence non copyleft, donc ça veut dire que...
Hyper permissive, hein,
voilà, il peut prendre le truc et le refermer. En revanche, le noyau Linux est sous une licence copyleft, donc ce qui veut dire que les modifications ne peuvent pas être refermées. Est-ce que ça permettra d'avoir un peu plus d'ouverture, un peu plus d'interopérabilité entre les solutions Microsoft et le reste? Je ne sais pas.
Alors, il y avait quand même une faille, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, le noyau Linux est protégé, bien protégé légalement. Donc, si sur notre poste de travail, on récupère un Windows qui contient ce noyau, ils seront obligés de mettre à disposition les modifications éventuelles. Par contre, sur un serveur en cloud, là, ils n'ont plus cette obligation. Parce qu'on n'est plus tout à fait l'utilisateur d'un service cloud distant.
Oui, parce que c'est quand on distribue le logiciel qu'on doit distribuer les modifications, effectivement.
Exactement. Et là-dessus, il y avait un piège. Il y avait eu beaucoup de discussions et de bagarres sur des évolutions des licences. Et là, il y avait eu des bagarres, notamment avec Linus Torvald et Richard Stallman. Mais bon, là, on va voir un petit peu comment ça se met en place, justement.
Dans le domaine du téléphone portable, Android, il y a quelques solutions libres qui existent, mais elles ne se sont pas développées. C'est peut-être parce que dans le domaine du téléphone portable, le matériel n'est pas très bien standardisé et c'est quand même très compliqué de faire des systèmes d'exploitation parce que le téléphone va changer tout le temps.
Ça force à faire des portages incroyables sur chaque architecture, quasiment.
Or, dans le PC, on est quand même beaucoup plus dans des technologies standardisées, ce qui avait d'ailleurs... coûtait très cher à IBM dans les années 80, puisque Microsoft leur avait fait justement ce coup-là de vendre le système d'exploitation en dehors du Mathaus.
Mais ils arrivent à des limites. C'est-à-dire que Microsoft, traditionnellement, ils sont sur x86, c'est l'architecture Intel phare. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est des architectures qui n'arrivent pas à évoluer dans le bon sens, notamment dans un sens de moins de nécessité énergétique. Et donc, quand on met dans un téléphone portable les mêmes microprocesseurs que dans un ordinateur, la batterie, elle est zappée en quelques temps, ça va trop vite. C'est pas du tout adapté. Et Microsoft ont essayé de porter leur système d'exploitation sur ce qu'ils appellent ARM, mais sur d'autres architectures aussi, ils ont rencontré pas mal de problèmes, notamment parce que leur écosystème ne vient pas avec le système d'exploitation, il n'a pas évolué.
Oui, et donc on voit tout l'intérêt de passer sur un noyau Linux, parce que là, ils arriveront à faire tourner ARM, puisque le noyau Linux marche déjà dessus, c'est ce qu'utilise Android.
Et il marche sur plein d'autres architectures. Hein.
Tout à fait, et donc on peut imaginer que la vision qu'ils aient de Windows à l'avenir, c'est des machines qui soient peu puissantes, mais qui soient des terminaux vers des services hébergés. Donc, c'est une rupture avec la stratégie ancienne du Wintel où on sortait tout le temps des nouvelles machines de plus en plus gourmandes.
Donc, le mélange entre Windows et Intel.
Et Intel, donc Windows faisait des trucs de plus en plus lourdingues et Intel vendait des processeurs de plus en plus puissants. Et les gens disaient « Oh, ma machine ne marche plus, il faut que j'en rachète une autre ».
Et ils s'entendaient très bien, ça permettait de faire évoluer le marché dans leur sens.
Tout à fait. Et donc là, on est peut-être sur un mouvement à l'inverse. Donc, je pense qu'ils pourront dire « Ah, nous, on est pour l'environnement. Regardez, on fait des machines, ça peut tourner sur des vieilles machines ou sur des machines peu puissantes ». Mais à l'inverse, ils vont pouvoir vendre du service, sachant qu'ils ont déjà un service de Windows hébergé.
Oui, où on peut accéder à distance à son poste de travail, qui est donc sur leur serveur, en France, probablement aux États-Unis aussi.
Voilà. Et il y a d'autres trucs qui sont en train de se monter là-dedans. On a dans le monde du libre entendu parler d'un changement sur la carrière de Jean-Baptiste Kempf. C'est l'heureux papa de VLC, hein, le logiciel libre français le plus connu, le plus...
utilisé pour lire des vidéos.
Voilà, et des médias en général. Et il est devenu directeur technique d'une start-up française qui permet, pareil, de louer d'un ordinateur à distance. Donc avec une petite machine, on peut accéder à un ordinateur à distance qui est maintenu, dont la puissance sera toujours à niveau, etc., etc. Et il y a d'autres solutions, notamment pour le jeu vidéo. Google fait ça.
Ils sont en train d'y travailler. Ça n'a pas pris pour l'instant, effectivement, d'avoir une petite console assez légère chez soi qui accède à des gros serveurs à distance. Mais l'idée est intéressante et probablement qu'ils vont creuser là-dessus.
C'est peut-être le nouvel Eldorado, la nouvelle tendance informatique long terme et que Microsoft fait ce calcul en se disant « Cette fois, on ne va pas rater le coche comme ils avaient raté le coche du téléphone. » Et peut-être qu'effectivement, passer au noyau Linux est le bon mouvement pour anticiper ce truc-là.
Rappelons, toutes ces discussions qu'on a sur ces architectures de gros serveurs et de petits clients, c'est ce qu'on faisait déjà dans les années 70. C'est toujours amusant d'imaginer ce retour en arrière. Mais bon, c'est la vie, il y a des cycles.
Alors la bonne question, c'est est-ce que ce passage à Linux, c'est une victoire du logiciel libre alors?
Mais clairement, bien sûr. Ceci dit, on connaît des libristes qui pleurent toutes leurs larmes parce qu'ils n'ont pas confiance dans Microsoft. Ils détestent Microsoft. Et donc là, ils imaginent que c'est une stratégie d'extinction, comme le boa constrictor qui vous entoure et qui vous étouffe.
Ce qu'ils avaient tenté de faire avec Internet Explorer,
d'autres technologies.
En tout cas, moi, je pense que ça n'ira pas dans le sens de la liberté de l'utilisateur. Comme le disait l'article du CIGREF de tout à l'heure, quand on a toutes ses données, toute son informatique hébergée chez quelqu'un, ben on est dépendant de lui. Donc même si cet acteur fait tourner du logiciel libre, ça ne nous rend pas plus libres pour autant. Donc nos problématiques restent tout à fait pertinentes.
Bah sur ce, je te dis, méfie-toi et à la semaine prochaine.
Ok, je surveillerai mes arrières. Salut.